L'ébénisterie est un métier d'art manuel qui, pour certaines personnes, a disparu de la circulation ou même reste inconnu à leurs yeux. Pourtant, ce métier existe depuis des centaines d'années et ne doit surtout pas se confondre avec la menuiserie. L'ébéniste va plus se concentrer sur la création et la restauration de meubles et l'on se tourne vers lui car il a une tournure beaucoup plus créative et artistique que le menuisier. Aujourd'hui, nous rencontrons Adèle Rateau et Jean-François Belk, ouvriers et responsables de l'atelier des Mets à Blois. Depuis combien de temps le métier d'ébéniste existe-t-il et en quoi consiste ce métier ?
L'ébénisterie daterait à peu près de la Renaissance. C'était le menuisier en ébène qui se différenciait du menuisier parce qu'il travaillait du coup les plaquages, les bois qui sont coupés très très fins. Et il plaquait ses essences exotiques, c'était du bois précieux qui coûtait très cher et du coup il le faisait en fin pour le plaquer sur des bois indigènes comme du chêne, du pin. Et c'était juste pour avoir un beau décor.
Et du coup, quelles qualités sont importantes pour ce métier ?
La patience.
Faut être patient, faut être précis, faut être créatif aussi.
Avoir la passion. Je crois que c'est le plus important. Toutes les qualités sont bien en fait pour ce métier, dès l'instant qu'on est passionné. Faut savoir bien travailler de ses mains et puis après, si on a la passion du métier, on arrive à tout, quoi.
Contrairement à ce que l'on peut penser, notre génération s'intéresse plus aux métiers manuels qu'avant, l'ébénisterie incluse. Une génération qui casse les clichés.
On dit qu'il y a de moins en moins d'ébénistes, est-ce que c'est vrai ?
Moi j'ai l'impression que c'est le contraire. Mais que c'est plus la même ébénisterie. Enfin, en venant m'installer dans la région après ma formation, j'ai cherché du travail chez des ébénistes qui étaient tous plus ou moins pas loin de la retraite. Et tous, ils avaient un discours super négatif sur le métier, comme quoi c'était fini, il n'y avait plus de débouchés. Mais du coup, il y a aussi plein de jeunes ébénistes qui se lancent et qui font d'autres choses, qui ne vont pas faire des cuisines entières ou qui se diversifie finalement et y a de l'allemande.
Je pense que le métier revient, ouais. Peut-être le métier proprement dit d'ébéniste restaurateur, il est peut-être moins courant maintenant qu'avant. Enfin, il y a eu une époque où c'était flamboyant, puis après il y a eu florissant. Enfin bon, il y en avait beaucoup et après il y a eu un gros déclin ouais, par l'industrialisation, la main d'œuvre qui augmente, donc ça coûte plus cher de faire réparer. Les gens ont de moins en moins de sous. Et maintenant, je pense qu'il y a un retour en arrière justement par rapport au fait que les gens ils reviennent sur le commerce de proximité et puis les choses qui durent.
Et le fait main aussi.
Et le fait main, ouais. Enfin surtout l'artisanat. Ouais. Donc je pense que ça revient plus tout à fait comme avant, mais l'ébéniste créateur de meubles revient.
Du coup, on y trouvait plus d'hommes que de femmes. Auparavant, est-ce que ça a évolué de nos jours ?
Bah oui, ça a évolué du coup.
La preuve. Oui,
ça évolue. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas embaucher des filles dans les ateliers de menuiserie. Moi, dans ma formation, on était peut-être un quart de filles. Et puis, c'est à peu près stable, je pense, comme chiffre. Mais juste, il n'y a aucune raison qu'une fille ne puisse pas faire son métier. Après, on peut avoir moins de force sur certaines choses, mais on peut se débrouiller autrement. Il y a plein d'outils qui nous aident à porter ce genre de trucs. Et je veux dire, le métier médiéviste, c'est pas que de la force, c'est surtout de la minutie, de la précision, enfin, de la création.
Je dirais qu'on disait que depuis longtemps, c'est un métier d'homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes au foyer. Donc forcément, il y avait moins de femmes qui faisaient ce genre de métier, quoi. Comme dans la maçonnerie, enfin, dans le bâtiment, dans beaucoup de choses. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus de règles.
Oui,
et
sûr.
Au contraire, vu que le meuble, c'est assez... ça demande une beauté, donc la touche féminine, je pense qu'elle est importante.
On dit que c'est un métier dangereux, est-ce que vous le ressentez ?
Moi, c'est vrai qu'au début, comme disait Jean-François, avec les machines, je faisais je trouve ça hyper impressionnant. Après, ça va mieux au fur et à mesure de l'utilisation. Il faut juste toujours garder à l'esprit que c'est dangereux. Et je suis assez contente de travailler à mon compte pour ça, pour pas avoir un patron derrière moi ou du stress dans l'atelier ou ce genre de choses qui ferait que ça serait plus dangereux, parce que là c'est moi qui gère et je sais, je connais mes capacités et je connais les machines. Donc c'est pas dangereux. Après on se blesse tout le temps, mais pas de là à se couper un doigt. Bah ça arrive malheureusement, mais...
Il y a quelques temps, il y a quelques années, c'était... Enfin, c'est de moins en moins fréquent parce qu'il y a de plus en plus de protection. Puis les machines sont quand même de plus en plus sécurisées. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Enfin, une scie circulaire, de toute façon, si on passe la main dedans, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi.
Ça reste des machines dangereuses, en fait, mais ce qu'on nous apprend, c'est que c'est toujours l'utilisateur qui est le plus grand danger, en gros, et l'environnement ambiant, quoi. Donc il faut juste être conscient de ce que tu fais à chaque fois que tu travailles sur la machine, quoi.
Être à l'aise, comme on vous expliquait tout à l'heure, à l'aise sur la machine, quoi. Avoir des machines bien affûtées, parce que ça, les gros accidents arrivent souvent parce que c'est mal affûté et puis qu'on force, et toujours en bonne position, et après, tant qu'on a les outils de sécurité, ça passe. On se fait des frayeurs, mais tant qu'on a peur, ça va. Mm-hmm. C'est quand on n'a plus peur du tout et qu'on fait plus attention.
Je lime les rimes à la machine dans l'atelier de ma petite usine. Je forme les mots en haut fourneau, forge les gammes avec mon âme. Je polis mes vers, papier de verre, ma poésie broute de fonderie. J'y serre mon blues à la clé de 12. Ouais, je suis un poète de la clé à molette, compagnon musicien. Ici tout est fait main, il façonne avec le temps le chant des artisans. J'y passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui, j'ai la nostalgie de la sidérurgie, du temps où les héros étaient les mécanos. J'aiguise mes riffs à la rectif, mon flow le plus abrasif, pointe au redressement productif, créatif. Je tourne autour mes ritournelles, mélodie à la manivelle, pour que les notes tiennent à la côte. Je fraise les phrases, un peu trop de jazz à la pignon sur rue. Et vu sur l'avenue, ma petite PM, oui c'est tout un poème. Refrain. Il façonne avec le temps le chant des artisans, qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui j'ai la nostalgie de la sidérurgie, du temps où les héros étaient les mécanos. Je perce les tierces, écarte les cartes, esquinte les quintes, ici les sixtes. Car c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les plus beaux hits. Et si je chante au noir le soir sous les hangars, toutes mes chansons tombées du camion. Il façonne avec le temps le chant des artisans, qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui j'ai la nostalgie de la sidérurgie, du temps où les héros étaient les mécanos. Il façonne avec le temps le chant des artisans, qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui j'ai la nostalgie de la sidérurgie, du temps où les héros étaient les mécanos.
Un métier d'art et de création qui oblige l'artisan à y amener sa touche personnelle.
Et pour vous, chaque personne a son style, a un style particulier quand il crée un meuble.
Ouais, clairement. Mais c'est ça qui est chouette, du coup, de du même matériau, on peut en faire plein de choses différentes.
Ouais, c'est chacun a sa personnalité, donc du coup, quand on crée quelque chose, on le fait selon ce qu'on aime. Et personne n'aime les mêmes choses. Chaque meuble est différent et chaque meuble a une personnalité selon le créateur. Quoi.
Et vous aussi, vous créez aussi vos propres meubles?
C'est seulement... Bah, du coup, en étant à notre compte, on a des commandes. Donc là, on fait ce que les gens nous demandent de faire. Et puis après, on peut aussi faire nos propres créations pour exposer sur les salons et puis pour essayer de les vendre, en sachant que c'est un peu plus compliqué, qu'il faut prendre du temps et que c'est pas forcément... Enfin, c'est quand même les meubles les moins vendables.
Oui.
Il faut que ça plaise. Et généralement, les créations, ça met beaucoup d'heures. C'est difficile à expliquer au client, quoi.
Ouais.
Enfin, le tarif horaire est...
C'est plus intéressant de faire quelque chose qu'on crée, mais c'est plus difficile à vendre. Mmh. Parce que c'est pas vendu avant, alors qu'une commande c'est déjà vendu avant de le créer. Après, même s'ils savent ce qu'ils veulent, on a quand même notre main sur... Enfin, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils aiment ce qu'on fait aussi.
Oui, il y a
parce qu'on fait de la création pour que les gens viennent nous voir. Donc il y a toujours un lien. Et on reste toujours, on va fabriquer un meuble qu'ils veulent, mais on va mettre notre patte dessus aussi, quoi.
Et vous avez une clientèle diversifiée?
Ouais. C'est vraiment plein de gens différents qui viennent nous voir. Enfin, moi, restauration, ça peut être des gens qui ont juste envie de restaurer un meuble de famille qui n'a pas forcément de valeur, mais une valeur sentimentale. Ou des gens qui ont envie, qui disent « Oui, je voudrais juste une commode comme ça, fais comme tu veux. » Ou d'autres qui ont vraiment des demandes très spécifiques, qui savent exactement le bois qu'ils veulent, la finition qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tous les budgets.
Tout le monde, ouais. Je dirais que tout le monde peut venir nous voir, mais pas forcément pour la même chose.
Bah, c'est ça, enfin, le métier du bois, en fait, ça regroupe tellement de choses différentes. Il y a l'ébénisterie, la menuiserie, la restauration. Et dans l'ébénisterie, il y a la marqueterie, puis il y a aussi la sculpture, le tournage sur bois. Il y a tellement de choses à faire. Mmh. Et ça permet des possibilités énormes.
Concentrons-nous un peu sur l'atelier d'Aimé, un atelier créé par les liens de l'amitié, mais aussi pour y trouver un intérêt financier non négligeable, un choix qu'ils ne regrettent pas grâce à la complémentarité de leurs activités.
Du coup, nous, on est l'atelier d'Aimé et on s'est regroupés, on est trois. Jean-François qui me dit ébéniste, Charles qui est coutelier, et moi je suis ébéniste. Et l'idée, c'était d'avoir un lieu commun, qu'on ne soit pas tout seul pour bosser. Et puis bah voilà, partager les machines, le loyer, puis enfin surtout la motivation d'être ensemble, c'est hyper agréable. Du coup avec Jean-François on a une partie commune, donc on partage toutes nos machines, les outils à main c'est plutôt personnel, donc ça je pense c'est dans tous les ateliers.
Ouais.
Portatif on partage aussi, on a chacun notre bois. Du coup on a aménagé l'atelier pour faire en sorte que on arrive, on pose le bois, et ensuite toutes les opérations sont plus ou moins dans un enchaînement logique.
Parce que l'espace est assez vaste pour accueillir les besoins de ces ouvriers, on y trouve des machines à l'aspect compliqué et tout aussi impressionnant.
Donc on a la grosse scie à format qui permet de faire du débit, c'est-à-dire de passer de la planche brute à quelque chose d'un peu plus travaillable. Après, on a la dégauchisseuse raboteuse, ça c'est une machine combinée, qui peut être séparée, qui permet d'avoir une planche, disons, carrée d'équerre droite. Enfin, c'est deux opérations, débit, corroyage, c'est vraiment la base du meuble. Ensuite, on a la mortaiseuse, qui permet de faire des mortaises, et la tenonneuse qui fait des tenons, et ça permet de faire les assemblages basiques aussi, enfin les assemblages principaux, disons, qui fait qu'un meuble tient. On a la toupie qui est une drôle de machine qui permet de faire plein de moulures différentes, enfin de faire plein de formes différentes. La scie à ruban qui nous permet de faire des courbes et plein de choses. Enfin, elle est super facile d'utilisation et très pratique dans un atelier, même si c'est pas forcément la plus vitale.
Dans mon ancien atelier, j'en avais pas. Ça me manquait de temps en temps. Maintenant qu'il y en a une. Si j'aurais pas, ça me manquerait sérieusement.
Okay.
Ah ouais, non, c'est quand même super pratique. Quoi.
Que... Enfin, moi, je garde le plus possible d'opérations à faire à la main, même si ça prend plus de temps, mais c'est super agréable de tirer un joli copeau avec une bastringue ou un rimbaud.
Je suis d'accord.
Même le bruit du ciseau quand tu tapes sur ton maillet, enfin c'est... Moi j'adore.
Quand on déligne à la scie à format, c'est presque plus du travail manuel. Mmh. C'est du travail, mais travail d'établi vraiment, ouais, à utiliser tout ce qui est devant l'établi. C'est la base du métier, on commence par ça en apprentissage. Celui qui veut commencer le métier, il commencera par toucher une scie à main plutôt qu'une scie à format. Donc ouais, c'est la base. Puis c'est ça qui reste le plus agréable.
Ce qui est aussi important dans l'atelier, c'est le post-affûtage. Du coup, justement pour nos outils à main. Et puis sinon, c'est aussi un peu un affûteur pour tous les outils des machines. Un outil bien affûté, c'est la base aussi.
Quand un outil ne coupe pas, on a tendance à forcer dessus. Un ciseau qui ne coupe pas, on va appuyer jusqu'à temps qu'il dérape et puis qu'on ait la main mal placée, ça nous entaille, quoi. Alors qu'un ciseau, une scie bien affûtée, ça coupe tout seul et on ne force pas et du coup, on n'a pas de risque de déraper. Une scie à ruban qui ne coupe pas, on va forcer, ça va chauffer, on va casser la lame. Alors que si elle coupe bien, ça glisse tout ça. C'est pour ça moi je dis que c'est moins dangereux. Mm-hmm. C'est juste qu'on force moins et du coup on a moins de chances de faire des conneries. Quoi.
Dans cet atelier, il y a aussi un côté coutelier où Charles Bourdu, leur troisième compère, travaille le métal. Il y fabrique des couteaux pliants et fait de belles finitions de manches. Cet artisan est tourné vers une clientèle auprès des chasseurs. C'est ce qui l'a poussé à revenir dans la région en plus de son attachement au territoire. Vous pourrez les retrouver au château de Chémery les vendredis 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril pour la journée des métiers d'art où plus de 80 artisans vont faire une démonstration de leur savoir-faire.